La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine, le rendez-vous de ses territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la découverte des pierres de légende, et pas n'importe lesquelles, celles du circuit des mégalithes de Sieux. Je rejoins Christian Bertrand de l'association touristique de Blon.
Le circuit des mégalithes regroupe, on va dire, un ensemble de sites sur lesquels on peut trouver des sites mégalithiques qui sont pour la plupart d'origine naturelle, l'érosion, mis à part bien sûr ceux qui sont des grosses pierres qui ont été érigées par l'humain, sachant que sur les deux menhirs, ils ont tous les deux été redressés récemment en fait, entre les années 70 et 90, je ne saurais pas donner les dates exactes, mais c'est de cet ordre-là. Donc c'était des pierres qui ont peut-être été dressées à un moment, qui se sont retrouvés couchés et qui ont été redressés depuis qu'on s'intéresse au patrimoine naturel de nos campagnes.
Et comment on redresse une pierre aussi imposante ?
C'est une bonne question. Dans les années récentes, je pense qu'on utilise des moyens de levage modernes. Dans le temps longtemps, comme dirait l'autre, on estime par exemple le menhir de Saint-Urac. Il a été estimé par les spécialistes qu'il avait fallu environ 200 hommes bien costauds pour le redresser, quoi. Puisqu'il fait 5,30 m et 2 m dans le sol. Donc il faut déjà creuser le trou et après il faut arriver à dresser la pierre dedans, quoi.
Et du coup, la pierre,
on est
voilà.
Sur le site de la pierre de Boscartu. Alors voilà, on l'appelle soit la pierre de Boscartu, soit la pierre branlante de Boscartu. Donc un gros rocher qui est posé en équilibre sur un deuxième rocher. Comme son nom l'indique, elle s'appelle la pierre branlante parce qu'effectivement, on peut la faire bouger. Historiquement, elle aurait servi de tribunal, à savoir que l'accusé qui arrivait à faire bouger la pierre, eh bien, il était considéré innocent.
Il y a une technique spéciale pour réussir à la faire bouger?
Il y a une technique spéciale, c'est-à-dire qu'il faut se mettre au bon endroit, c'est-à-dire qu'il faut regarder où sont les points de pivot, et puis ensuite, il faut commencer à pousser, et à partir de la première poussée, il faut essayer de voir le mouvement de la pierre qu'on vient de lui imprimer. Si on force au mauvais moment, les 120 tonnes de la pierre vous empêchent de le faire bouger. On essaye?
On essaye.
On essaye. Les pivots, ils sont là. Là, on le voit, hein. C'est là que ça touche. Et en face. Donc elle bouge comme ça, quoi. Et la meilleure position pour voir le mouvement, c'est de se mettre devant les rochers qui sont là-bas, à côté de l'arbre.
C'est impressionnant de voir une pierre pareille pouvoir bouger à la force d'un homme, quand même.
Voilà, donc maintenant on va aller voir rocher des fées et pas de la mule. Donc l'étendue Brudou, faut venir soit le matin très tôt, soit le soir à la tombée du jour. Avec un peu de chance, on peut peut-être voir les nymphes. Alors il faut savoir que ce sont des nymphes sympathiques, et qui a priori n'étaient pas très copines avec les fées du rocher des fées.
Ah.
Parce que les fées du rocher des fées, je me demande s'il faut les appeler fées ou sorcières.
Elles étaient si méchantes que ça.
La petite histoire qu'on va découvrir, c'était pas très sympathique finalement.
Vous laissez le suspense jusqu'à ce qu'on arrive au rocher des fées. Ah oui, moi qui pensais que le premier était imposant, celui-là il l'est encore plus.
Là il y a deux choses qu'on peut raconter. Il y a l'aspect historique, je devrais dire préhistorique, puisqu'il y a des fouilles qui ont été faites sur le site et qui effectivement ont montré qu'il y a eu des occupations humaines très lointaines. Et puis après, il y a toute la légende par rapport aux fées. Donc on a vu l'étang du Brudou, où il y a les nymphes, qui en fait ont aidé à délivrer la bergère que les fées avaient attirée par une douce mélodie et qu'elles avaient fait prisonnière donc au niveau du rocher des fées. Et comme les nymphes n'étaient pas très copines avec les fées, elles ont fait lever non seulement un brouillard dense sur toute la zone, mais en plus elles ont appelé à la rescousse de la bergère un prince local en lui fournissant une mule enchantée qui d'un bond est arrivée jusqu'ici pour délivrer la bergère. Voilà toute l'histoire, quoi qu'il en soit, des fées et des nymphes du rocher des fées. Et juste à côté, le pas de la mule. On y va.
On y suit.
Le pas de la mule, c'est l'ensemble de ce site, avec en particulier ces traces qui ressemblent de loin, en surplombant un peu le site, à un gros sabot, donc le fameux sabot de la mule enchantée qui serait venue délivrer la bergère avec le prince sur son dos. Et puis, il y a aussi l'histoire de la mandragore. Alors là, c'est terrifiant, puisque ce serait la mandragore qui a laissé son empreinte en faisant un dernier bond depuis la zone de la butte de Frochet, où elle aurait été blessée à mort par Guyot de Saint-Quentin, l'écuyer du seigneur de Jonsrolles, pour lequel il était venu sauver sa fille qui devait être sacrifiée à la bête. Il l'a blessée mortellement, elle aurait fait un grand bond depuis là-bas, et elle se serait posée ici, et elle aurait fait un autre bond pour aller mourir dans un étang quelque part, peut-être à Sieux, peut-être ailleurs.
J'espère que cet extrait vous a donné envie de faire les 13 km du circuit des mégalithes de Sieux. Pour le Graal, Lucie Alix, RCF Limousin.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.